Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages s'intéresse au livre Les Voix de la Lumière de Trinh Nguyen Thuan qui reçoit le prix Moron de l'Académie française 2007. Monsieur Trinh, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes originaire de Hanoï et vous êtes astrophysicien, professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis et auteur d'ouvrages qui mêlent à la fois science et philosophie ou science et spiritualité, tels que La Mélodie secrète, Le chaos et l'harmonie, L'infini dans la paume de la main ou encore Origine, la nostalgie des commencements. Alors, dans cette émission, nous allons plutôt détailler votre dernier livre, hein, Les Voix de la Lumière, qui est paru chez Fayard en février 2007. Donc, nous pourrons parler dans ce livre, plus en détail peut-être, des personnages historiques qui jalonnent ces quelques 600, 700, voire 800 pages. Nous parlerons également de la symbolique de la lumière, symbolique à travers les artistes, à travers l'aspect spirituel. Mais tout d'abord, Monsieur Trinh, comment vous est venue l'idée de travailler sur la lumière, vous l'astrophysicien?
Oui, vous savez, la lumière est ma compagne. C'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec l'univers. Parce que vous savez, l'astronomie est la seule science où on ne peut pas faire les choses en laboratoire. Je ne peux pas concocter des étoiles dans des éprouvettes ou recréer le Big Bang en laboratoire. Et l'espace est tellement grand que je ne peux pas y aller voir sur place. Donc, il faut communiquer avec un moyen, et c'est la lumière qui est ce merveilleux moyen, ce code cosmique que l'univers m'envoie. Donc, quand je décompose la lumière, par exemple, en ses composantes énergétiques, je peux, par exemple, regarder les mouvements des étoiles, parce que tout bouge, tout change dans le ciel, et même la composition chimique, vous savez, comme le carbone, l'azote, l'hydrogène, etc. Donc c'est vraiment un code cosmique que l'univers nous envoie pour que nous comprenions l'univers. Et encore plus, la lumière met du temps pour nous parvenir. Sa propagation n'est pas instantanée, c'est-à-dire elle se propage à la plus grande vitesse possible dans l'univers, 300 000 km par seconde, c'est-à-dire clic, et déjà la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre, mais à l'échelle de l'univers, c'est une vitesse de tortue. Donc nous voyons l'univers toujours avec un peu de décalage, un peu de retard. Donc je vois la Lune, par exemple, une seconde après, le Soleil, 8 minutes après, la plus proche étoile, 4 années après, la plus proche galaxie, semblable à la Voie lactée, qui est Andromède, 2 millions d'années après. Donc vous voyez, la lumière qui parvient d'Andromède, qui parvient maintenant à mon télescope, est partie quand le premier homme apparaissait sur Terre en Afrique. Et donc, c'est comme ça que l'astronome peut remonter le temps.
Aux origines de l'univers.
Voilà, et reconstituer l'histoire cosmique. Les télescopes, donc, sont de véritables machines à remonter le temps.
Alors justement, c'est ce que vous précisez dans vos propos de votre livre. Vous avez justement tout ce paragraphe que vous venez de citer sur les 300 000 km par seconde et ce temps que peut parcourir la lumière. Venons-en peut-être aux grands personnages historiques qui jalonnent votre livre.
Oui.
On commence avec la Grèce antique, avec Empédocle, par
tout
exemple,
tout à fait.
Et le feu, feu intérieur.
Voilà. Oui, la lumière a préoccupé vraiment tous les grands esprits scientifiques à travers l'histoire des sciences. Le grec Empédocle pensait qu'en fait, la lumière venait de l'intérieur, ce qu'il appelait le feu intérieur. Donc, c'est le feu intérieur qui illumine les objets plutôt que la lumière réfléchie des objets qui pénètrent dans nos yeux comme on le pense maintenant. Et c'est en fait le sens exact du parcours de la lumière est découvert donc par le grand savant arabe Al-Hazen.
Al-Hazen, donc, qui l'an 1000 donc à peu près.
Voilà, c'est ça, l'an 1000 à peu près, donc qui dit donc c'est la lumière réfléchie du soleil donc qui pénètre dans nos yeux. Et puis on en vient à la Renaissance avec Léonard de Vinci, qui, bien que grand artiste, mais aussi grand scientifique, qui réalise que l'œil est une chambre obscure. Vous voyez, et si c'est une chambre obscure, et si la lumière se propage en ligne droite, comme Euclide l'avait déjà réalisé, tout devrait être à l'envers. Et donc, de Vinci, bien sûr, se questionne pourquoi nous voyons le monde à l'endroit alors que tout devrait être à l'envers. Donc, il pense que le cristallin donc, de l'œil rétablit l'ordre de manière erronée. Et en fait, c'est Kepler, un peu plus tard, qui réalise que les images formées par la lumière du monde extérieur sont non sur le cristallin, mais sur la rétine. Et en fait, que c'est le cerveau qui rétablit l'ordre. Nous voyons le monde à l'endroit parce que c'est le cerveau qui rétablit le monde à l'endroit.
Les rayons lumineux arrivent de manière, on va dire, rectiligne,
voilà.
Et après vont converger vers un seul et même point.
Voilà, qui est donc sur la rétine. Et la rétine, donc, est une partie du cerveau. Donc, en fait, on peut dire même que Kepler est le fondateur de la neurophysiologie, en fait. Et donc, après Kepler, bien sûr, vient le grand Newton. Au XVIIe siècle, c'est lui qui est le premier à compris que la lumière blanche que nous voyons du soleil, en fait, est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, du bleu au rouge. Et donc, il le démontre en faisant passer la lumière du soleil à travers un prisme qui décompose donc en lumière. Et après, le personnage historique important qui vient est Thomas Young, l'anglais Thomas Young, qui, pour la première fois, démontre que si on fait passer de la lumière à travers deux fentes parallèles et qu'on regarde la lumière sur un écran après les deux fentes, il y a une succession de zones brillantes et de zones d'ombre. Donc, ce qui est extraordinaire dans cette expérience, dite d'expérience des fentes de Young, c'est que à certains endroits sur l'écran, ajouter de la lumière à de la lumière donne l'obscurité, ce qui est extraordinaire.
Donne de l'ombre.
Donne de l'ombre. Donc ça, on revient au débat donc, de la nature même de la lumière. Vous voyez, Newton pensait que la lumière était un corpuscule. Mais si la lumière était purement corpuscule, si on ajoute de la lumière, on doit toujours avoir la lumière plus lumineuse. Parce qu'on a deux fois le nombre de particules de lumière, vous voyez. Donc, on ne pourra jamais avoir l'obscurité de l'ombre. Donc, la seule façon d'expliquer qu'ajouter la lumière donne parfois de l'ombre, c'est de donner à la lumière une nature ondulatoire, une onde. Donc, c'est-à-dire, par une fente, par exemple, la lumière peut arriver à une crête. C'est-à-dire, tandis que par l'autre fente, la lumière arrive et elle a un creux. Donc, la crête s'ajoute au creux et ça donne zéro, vous voyez, donc de l'ombre. Donc, l'onde est nécessaire pour comprendre ce qu'on appelle les franges d'interférence donc, de Thomas Young. Donc, ce débat va durer jusqu'au XXe siècle. Bon, il y a Maxwell qui unifie l'électricité et le magnétisme et qui démontre que ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques sont en fait des ondes lumineuses. Donc, il unifie l'optique aussi. Donc, lui aussi, il donne de l'eau au moulin des ondes. Mais c'est seulement au XXe siècle. Donc, Einstein, pour expliquer ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, c'est-à-dire l'effet de ce que fait la lumière quand on illumine un métal, des électrons sont éjectés. Et pour comprendre le comportement des électrons, il faut donner à la lumière de nouveau une nature de corpuscule avec une énergie bien déterminée. Donc, Einstein reprend l'idée de Quanta, donc de Planck, et donc c'est la naissance de la mécanique quantique du XXe siècle, une des grandes théories physiques de la mécanique quantique du XXe siècle, avec relativité, bien sûr. Après ça, donc Bohr, donc un autre fondateur de la mécanique quantique, dit en fait la lumière, elle est deux à la fois. Elle est à la fois onde et particule. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Et c'est l'observateur qui détermine la nature de la lumière. Vous voyez, quand on l'observe pas, elle est onde. Mais dès que le physicien active son appareil, qu'il l'observe, il devient particule. Donc, elle est de deux à la fois, et ça, c'est extraordinaire.
Alors, les ondes, en fait, ça correspond aux lumières infrarouges, ultraviolets?
Enfin, la lumière, justement, a beaucoup de natures, justement, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, en ordre d'énergie croissante, la lumière la plus énergétique, c'est les rayons gamma, puis les rayons X, parce que, bon, elles sont très énergétiques parce qu'elles traversent votre corps. Et les rayons ultraviolets après, vous voyez, elles brûlent la peau. Les femmes qui se dorment en ce moment même sur les plages ont la peau brûlée à cause de la lumière ultraviolette. Et puis, la lumière visible, et puis la lumière infrarouge, et puis la lumière micro-ondes, celle de vos fours, et puis la lumière radio. Et en fait, nos yeux peuvent voir seulement la lumière visible. Mais l'univers, bien sûr, émet dans toutes ces sortes de lumières. Donc, les astronomes, pour vraiment comprendre l'univers, doivent construire des instruments, des télescopes qui recueillent toutes ces sortes de lumières. Donc, il y a, vous voyez, des télescopes gamma, des télescopes X, des télescopes radio, etc. Les télescopes visibles. Seuls sur Terre, on peut n'avoir que des télescopes visibles et des télescopes radio. Les autres doivent être au-dessus de l'atmosphère terrestre. Comme Hubble, par exemple, qui tourne autour de la Terre maintenant à 600 km au-dessus de la Terre.
Alors, revenons sur notre planète Terre et revenons peut-être à Buffon. Buffon qui pense que justement au niveau des couleurs primaires qui composent en fait la lumière blanche, qui pense que justement il y a plus de 7 couleurs et qu'il y en a beaucoup plus. Il y a aussi ce débat-là qui...
Newton pensait qu'il y avait 7 couleurs primaires. Mais en fait, vous voyez, donc ça dépend en fait de l'observateur aussi. Nous voyons quelques 200 teintes différentes. Et en fait, c'est de nouveau Young, vous savez, celui qui a fait l'expérience des fentes de Young, qui de nouveau trouve la bonne théorie. En fait, l'œil n'est composé que de 3 sortes de récepteurs, ce qu'on appelle des cônes, qui a 3 couleurs primaires seulement. Et en fait, tous les autres teintes que nous voyons, c'est les combinaisons, en fait, par le cerveau, de ces 3 couleurs primaires.
Je vous propose de marquer une courte pause et puis nous reprenons tout de suite après notre émission au fil des pages pour parler peut-être plus cette fois-ci de l'aspect, on va dire, spirituel, symbolique et artistique de la lumière. À tout de suite. De notre émission Au fil des pages, toujours en compagnie de Trinh Xuân Thuan, avec qui donc nous parlons des Voies de la Lumière, qui est un ouvrage paru chez Fayard en février 2007 et qui vient de recevoir le prix Mauron de l'Académie française. Avec vous, Monsieur Trinh, dans cette deuxième partie, nous allons toujours parler bien sûr de la lumière, puisque c'est l'objet de votre visite ici à Canal Académie. Dans cette deuxième partie, nous allons pouvoir en parler sous un jour peut-être plus symbolique, le code des couleurs peut-être,
oui,
et également l'aspect symbolique sur le plan spirituel. Vous qui êtes justement bouddhiste, peut-être que vous allez pouvoir nous en parler un peu plus en détail, mais peut-être déjà sur le code des couleurs. Et voilà, quel est le lien déjà entre lumière et couleur?
Oui, donc les couleurs en fait, ce sont les composantes de la lumière qui ont différentes énergies justement. Vous voyez donc par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, la lumière visible peut être décomposée en 7 couleurs principales, primaires. C'est ce que Newton a démontré, du bleu au rouge, en passant par le jaune, le vert, l'indigo, etc. Et donc ça, c'est l'énergie. Donc la couleur bleue est la lumière la plus énergétique, la couleur rouge la moins énergétique. Mais bien sûr, ça, c'est un point de vue purement scientifique. Et en fait, vous savez, Goethe s'est élevé contre cette interprétation purement scientifique de la lumière que Newton a donnée. Il trouvait trop mécanique et trop loin de l'humain. Et Goethe, bien sûr, étant un grand dramaturge, un grand poète, bien sûr, se préoccupait de l'humain. Et donc, il pensait aussi donner une dimension esthétique aux couleurs. Et il a, moi je dirais, écrit le premier traité esthétique des couleurs, en fait. Et il parlait des couleurs chaudes, des couleurs froides, etc. Des couleurs chaudes comme le rouge, vous voyez, les couleurs froides comme le bleu. Et donc, il avait fait toute une esthétique de ces couleurs et qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous voyez, par exemple, le rouge peut représenter pour nous l'interdit. On s'arrête au feu rouge, vous voyez, tandis que le feu vert, c'est, on peut passer au travers du feu vert. Le blanc, par exemple, représente la pureté, l'innocence. C'est pourquoi toutes les mariées sont en blanc. Vous voyez, enfin, donc il y a la propreté aussi, bien sûr. Les baignoires, les lavabos sont tous en blanc. Donc, vous voyez, donc, il y a un code des couleurs que l'humain, bien sûr, ressent et que, bien sûr, donc, Goethe voulait attirer l'attention dessus. Et puis, bien sûr, tous les grands peintres aussi utilisent ces couleurs à un plus grand effet, bien sûr, pour nous susciter des sentiments, des émotions devant donc, le spectacle des couleurs de la nature. Donc, en particulier, par exemple, moi, je suis un grand admirateur de Claude Monet, bien sûr.
Se ressent dans votre livre, puisque vous en parlez à un moment donné dans un chapitre, et puis rien que la couverture, hein, les nymphéas.
Tout à fait. Et lui, bien sûr, un grand étudiant de la lumière, parce qu'il a peint. Pour lui, c'est capter l'instantanéité de la lumière, l'instant présent. Vous voyez, donc, il s'assoit devant la cathédrale de Rouen, par exemple, il a peint à toutes les heures possibles. Donc, on voit comment la couleur et les couleurs changent justement en fonction de la luminosité du soleil, vous voyez.
Il l'a peint plus de 80 fois, il me semble.
Tout à fait. Et puis, donc, il y a des séries complètes comme ça. Donc, toujours le même thème, mais à des couleurs, des instants différents. Les meules de foin, par exemple, aussi, qui ont influencé plus tard comme des gens comme Kandinsky, par exemple. Donc, on voit comment ils jouent avec la couleur. Et puis, bon, il y a des peintres comme Seurat qui aussi jouent avec la couleur. Vous voyez, en général, les peintres, quand ils essaient d'obtenir des effets colorés, ils mélangent des couleurs différentes sur leur palette. Seurat adopte une technique différente. Il peint des petits points dans une seule couleur. Mais c'est le mélange des couleurs se fait dans le cerveau du spectateur. Donc, vous voyez, ce n'est pas sur la palette, mais sur le cerveau du spectateur. Donc, quand nous éloignons d'un tableau pointilliste, sera bien sûr, donc, le cerveau donc, mélange tous ces points de couleurs différentes. Et donc, on voit se dessiner des couleurs formidables. Donc, Seurat aussi joue avec les couleurs. Et puis, Kandinsky, bien sûr, donc, maintenant, c'est le père de l'art abstrait, vous voyez, qui dit que maintenant, c'est les couleurs qui ont la primauté, mais pas la forme des choses. En général, on pense, on dessine d'abord la forme des choses et puis on met des couleurs après, mais c'est maintenant les couleurs prennent la primauté, vous voyez. Donc, c'est les couleurs qui expriment cette émotion, cette nécessité intérieure, Kandinsky dit. Donc, tous ces peintres sont des superbes maîtres pour la reproduction des couleurs, pour la création des couleurs, pour nous susciter des émotions différentes devant le spectacle de la nature. Donc ça, c'est l'art. Bien sûr, il y a la spiritualité aussi. La lumière joue un très grand rôle dans la spiritualité. Bon, dans la religion chrétienne, par exemple, Dieu est lumière.
Dans toutes les religions, non, ce n'est pas forcément le cas.
Oui, probablement, on peut dire dans presque toutes les religions. Mais bon, parlons d'abord de la religion chrétienne, Dieu est lumière. Et pour moi, l'architecture de la lumière, par excellence, c'est les cathédrales gothiques. Vous voyez, c'est de la lumière donc, qui rentre par les grands vitraux, parce que l'architecture gothique permet justement d'avoir de grandes fenêtres. Parce qu'auparavant, avant l'art gothique, c'était l'art roman, vous voyez, et c'était des choses très sombres parce que tout le poids reposait sur les murs. Ici, dans l'art gothique, le poids repose sur les piliers, donc on peut utiliser les murs avec de grandes fenêtres pour faire pénétrer la lumière de Dieu, donc qui rentre dans les cathédrales gothiques. Et moi qui suis bouddhiste, bien sûr, le bouddhisme, vous voyez, n'admet pas un concept de Dieu. Parce que, bon, l'un des concepts basiques du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire tout dépend de quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas de concept de quelque chose qui crée ex nihilo un univers indépendamment de lui. Donc, il n'y a pas de concept de Dieu. Bouddha est un être comme vous et moi, c'est un guide qui a trouvé la voie. Et donc, chacun de nous doit parcourir cette voie pour parvenir à ce qu'on appelle à l'éveil. L'éveil, justement, donc, c'est ce qu'on appelle la luminosité de l'esprit. Vous voyez, donc, de nouveau, mais dans le bouddhisme, lumière signifie dissipation de l'ignorance. Parce que dans le bouddhisme, on pense que toute la souffrance vient du fait qu'on interprète mal la réalité. On s'attache à des choses qui ne sont qu'apparences, en fait, finalement. Vous voyez, elles n'ont pas d'existence intrinsèque, mais qui sont apparentes.
Matérielles.
Oui, qui sont matérielles. Et donc, qui n'en valent pas la peine, finalement. Et c'est ça qui cause la souffrance, qui cause la jalousie, la haine, etc. Parce qu'on s'attache à des choses qui ne sont que matérielles. Et donc, quand on a compris ça, donc on a atteint ce qu'on appelle l'éveil. Et l'éveil, c'est la luminosité de l'esprit, c'est l'esprit qui devient lumineux. Donc, vous voyez de nouveau cette symbolique de la lumière qui se retrouve dans le bouddhisme aussi.
La lumière est toujours véhiculée comme étant quelque chose de positif, qui
tout
nous ouvre vers d'autres horizons.
Tout à fait. Et en contrepartie, bien sûr, l'obscurité, c'est quelque chose de négatif, bien sûr, dans Lucifer, dans l'enfer, etc., dans la religion chrétienne. Et donc, c'est dans le bouddhisme, c'est l'aveuglement dans la pénombre, dans les ténèbres, bien sûr, de nouveau. Vous voyez.
Justement, au XVIIIe siècle, on parle juste à proprement parler du siècle des Lumières, des philosophes.
Tout à fait. Et eux aussi, donc, c'est dans le sens de la connaissance, de nouveau. Vous voyez, la connaissance, l'acquisition de la connaissance, et qui est donc le même sens que le bouddhisme utilise, la lumière.
Et comment sommes-nous venus à associer la lumière à quelque chose de positif, tel que la connaissance, ou en tout cas la dissipation de l'ignorance, comme vous nous le disiez à l'instant?
Oui, parce que la lumière est source de vie. Nous existons grâce à la lumière du soleil. Sans la lumière, nous ne serons pas là. Parce que, tout ce qui est énergie sur Terre, tout ce qui est vie sur Terre dépend de la lumière. Et en particulier, par exemple, tous les arbres, par exemple, dépendent de la photosynthèse. Vous voyez, donc, c'est la lumière du soleil. Et puis, donc, la lumière du soleil est responsable de toute nourriture, de toutes les sources d'énergie,
sources
de vie. Donc, elle est source de vie. Et c'est pourquoi nous associons inconsciemment donc, la lumière à quelque chose qui nous donne la vie, qui est source de vie.
Vous parlez dans votre livre, bien sûr, des peintres, vous parlez bien sûr de l'aspect spirituel. Est-ce que la lumière a un rapport avec la musique? Est-ce qu'on peut apporter...
Il y a beaucoup de peintres qui ont associé la lumière avec la musique parce que, bon, tous les deux ont une nature ondulatoire. Donc, la musique est une onde, mais aussi le son est une onde. Vous voyez, par exemple, quand je vous parle, il y a une onde qui se propage dans l'air de ma bouche à votre oreille. C'est comme ça que vous m'entendez. Et donc, en fait, Kandinsky, par exemple, associait souvent donc, les vibrations lumineuses à des vibrations de son. Il appelait souvent ses tableaux des compositions, vous voyez, ou des symphonies, ou des choses comme ça, vous voyez. Et donc, il y a une constante référence à la lumière. Bon, bien sûr, les deux phénomènes ont des différences. Par exemple, bon, quand vous êtes à un coin de rue, vous pouvez entendre des gens qui sont de l'autre coin de rue que vous ne voyez pas. Vous voyez, donc, les ondes soniques peuvent contourner le coin et pourtant, vous ne les voyez pas. Donc, les ondes lumineuses ne peuvent pas vous parvenir dans un coin de rue, ne peuvent pas contourner le coin de rue, tandis que les ondes sonores le peuvent. Et en fait, c'est Augustin Fresnel, vous voyez, un grand polytechnicien scientifique d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a été élu à l'Académie française.
Fresnel ?
Non, je ne pense pas, Il a eu en fait un prix de l'Académie française parce qu'en fait, vous savez, pendant le débat ondes particules dont je parlais tout à l'heure, l'Académie a lancé un grand concours en fait à des scientifiques pour démontrer la nature corpusculaire de l'onde. Parce que bon, les académiciens qui étaient à ce moment-là, comme des gens comme Laplace, etc., de grands noms, pensaient que la lumière était de nature corpusculaire. Mais donc Fresnel, avec son talent, démontre en fait la nature ondulatoire de Thomas Young, dont je parlais tout à l'heure. Et il a obtenu haut la main le prix de l'Académie française pour ça, en fait. Bien, donc les académiciens ont changé leur point de vue après le traité de Fresnel. Et donc, vous voyez, donc, il démontre la nature ondulatoire de la lumière. Et il démontre, en fait, que la lumière ne peut pas contourner les coins de rue parce que, en fait, elle s'annule quand elle contourne les coins de rue et elle devient très, très petite, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer ça. Donc, les deux sont vraiment reliés. Le son et la lumière ont tous les deux une nature ondulatoire.
Est-ce qu'aujourd'hui, il nous reste encore des choses à découvrir sur la lumière?
Oh, bien sûr, beaucoup de choses, vous savez. Et surtout, en fait, c'est surtout sur le manque de lumière. Parce qu'en fait, tout ce qui émet la lumière dans l'univers, donc, vous voyez, ne constitue que 0,5% du contenu en masse et énergie de tout l'univers. Donc, ce 0,5%, donc, vous voyez, contient 100 milliards de galaxies, chacune des galaxies contenant 100 milliards de soleils comme le nôtre. Donc, vous voyez, c'est tout ce que contient l'univers. Déjà, beaucoup de choses. Mais, en fait, ça ne constitue que 0,5% de la matière qui rayonne. En fait, tout le reste ne rayonne pas.
C'est de la matière noire?
Oui, donc il y a la matière noire. Il y a environ 29% de matière noire. Vous voyez, donc, et on sait que seulement 4%, cette matière noire est composée de matière ordinaire comme nous, c'est-à-dire de protons et de neutrons comme nous. Et en fait, 22% est composée d'une matière noire exotique, donc on ne connaît même pas la nature. Donc, vous voyez, c'est un grand, grand mystère. Et puis, il y a 70% du contenu en énergie de l'univers qui est fait de ce qu'on appelle une énergie noire, c'est-à-dire quelque chose d'antigravité, parce que la masse attire toujours, vous voyez, et doit décélérer l'expansion de l'univers. Or, à la fin du XXe siècle, on a découvert que l'univers, au lieu de décélérer, l'expansion de l'univers, au lieu de décélérer, est en accélération. Donc,
L'expansion de l'univers.
Oui. Et il semble que l'univers a une force antigravité. Donc, on ne connaît absolument pas la nature aussi et qu'on appelle, pour faute de plus d'informations, de l'énergie noire. Il y a vraiment du pain sur la planche qui reste pour les astrophysiciens. On doit comprendre 96% de l'univers, donc on n'a aucune idée.
Donc, l'astrophysicien que vous êtes encore, pas mal de pain sur la planche.
Tout à fait.
Eh bien, merci Trinh Xuân Thuan de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui a reçu donc le prix Mauron de l'Académie française en 2007. Votre ouvrage, donc Les Voies de la Lumière, paru chez Fayard de cette même année, donc 2007. J'invite nos internautes à poursuivre sur les émissions concernant l'astronomie et toutes les émissions scientifiques en se connectant sur le site www.canalacademy.com et la rubrique éclairage ou alors à la rubrique science. Vous trouverez toutes les émissions que vous souhaitez. Merci Monsieur Trinh de nous avoir encore une fois rendu visite. Vous repartez, je crois, pour les États-Unis très
fait.
Vite.
Mes cours reprennent en quelques semaines.
Où vous reprenez vos cours. Vous enseignez donc l'astronomie auprès d'étudiants en littérature.
Tout à fait, oui.
Et alors, nous vous souhaitons donc bonne route, bon voyage.
Merci,
et puis
merci
peut-être
de m'avoir
à bientôt
invité.
Pour une prochaine fois. Merci.